On va donc maintenant passer au second plateau TV où la thématique c'est la recherche de la valeur. Et comme à l'image du premier plateau, nous allons démarrer ce point-là en nous retournant vers nos adhérents à travers une deuxième séquence de micro-trottoirs.
Donc nous, on est très axé sur le numérique et les nouvelles technologies. Donc c'est ce en quoi on croit pour créer et accompagner la création de valeur pour nos clients. Et donc on souhaite accompagner toutes les filières d'élevage vers la transition agroécologique par le biais du numérique.
Alors, depuis la création de l'entreprise aussi, on s'est toujours tourné vers nos utilisateurs, de bien observer l'usage. Donc, nous, la valeur ajoutée première, numéro un, et notre matière première, c'est nos agriculteurs, auprès de qui on va justement écouter toutes les problématiques et trouver des solutions pour y répondre.
Donc, dans le cadre de nos activités, nous nous intéressons bien sûr aux énergies renouvelables et nous avons une attention particulière notamment à toutes les technologies permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre notamment toutes les technologies qui consistent à piéger ou à valoriser le CO2 émis ou encore être capable de convertir ce CO2 fatal en nouvelle énergie.
En tant qu'association, la valeur recherchée par nos membres, c'est vraiment la structuration de cette filière qui va être capable de tirer le meilleur de chaque aspect de la plante du sorgho, que ce soit au niveau du grain, de la tige, de la fibre, des pigments. Chaque partie doit et peut être valorisée de façon vraiment pertinente. Et une filière organisée, elle pourrait aussi ainsi être à même de satisfaire un marché intérieur européen dynamique et ainsi de ne pas dépendre d'opportunités d'exportation.
On peut essayer de rencontrer d'autres entreprises qui pourraient être intéressées dans les molécules que produisent nos rosiers, par exemple, ou pour valoriser les produits, les coproduits de notre sélection.
Alors la valeur dans nos produits, on la recherche à différents niveaux. Donc dans un premier temps, la plus directe sur la qualité de nos produits. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur attache une importance importante sur la qualité des produits, sur la traçabilité des produits. Il a besoin d'être assuré, c'est légitime. Sur des nouveaux produits, ou tout du moins nouveaux concepts de consommation, parce que là aussi, le consommateur change ses habitudes. Et il faut lui donner des outils, il faut répondre à ces nouveaux usages, pour que demain, celui-ci puisse toujours être attiré par nos produits. Dans la même lignée que ceux qui les consomment aujourd'hui.
Aujourd'hui, on investit beaucoup dans l'évolution des outils vers l'analyse prédictive, donc on utilise notamment l'intelligence artificielle pour modéliser le comportement des hydrosystèmes.
Beaucoup dans des nouveaux produits ou dans des nouvelles approches de fabrication pour des produits existants.
Pour développer une nouvelle filière agricole, de nouveaux marchés, pour permettre aux agriculteurs de diversifier leur rotation et d'en vivre économiquement. Développer des idées originales qui n'ont peut-être pas de sens a priori, mais qui pourraient ouvrir de nouvelles façons de produire.
Alors l'export, bien sûr, c'est un levier pour nous. Alors cette année, c'est sûr, avec la crise sanitaire, tout est remis en cause, hein. On n'a pas pu développer l'export comme on le souhaitait, du fait de cette crise. Mais dans tous les cas, l'objectif était également d'exporter en fait notre savoir-faire de la nutrition, de la santé, du bien-être pour l'élargir à l'exportation.
Nous voilà donc au second plateau TV avec ce sujet de la recherche de valeur et ces témoignages de nos adhérents qui ont déjà formulé quelques pistes quant à cette recherche. J'ai le plaisir d'accueillir de nouveaux participants à ce deuxième plateau, en particulier donc Philippe Laurent. Je vais le laisser se présenter parce qu'on va peut-être présenter les entreprises aussi. Ça sera une occasion de faire un petit peu différemment du plateau numéro 1. Donc Philippe Laurent, de la structure Pilège, du groupe Pilège, et puis Dominique Amilien, donc de la structure Villemorin Mikado, aux côtés toujours de notre présidente. Si vous voulez bien, on ne va plus la présenter cette fois-ci. Philippe, quelques mots sur ton entreprise, puisqu'on a gardé le tutoiement.
Bah écoute, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Gino pour cette introduction. C'est du direct, j'enlève le masque. Je suis cofondateur et dirigeant du groupe L'Arena Pilège. Nous avons développé une offre de médecine de prévention qui prend en charge les facteurs de risque de maladies chroniques. Et quand on parle de maladies chroniques, on n'est pas bien loin des molécules biosourcées, en particulier d'origine végétale. Donc aujourd'hui, nous sommes implantés dans 4 régions en France, pas loin d'ici à Champtoceau, donc à côté de Nantes, sur le centre de la France, au nord de Clermont, à l'ouest de Toulouse et sur Paris. Voilà, nous sommes une entreprise familiale et nous sommes 650 personnes sur l'ensemble du groupe. Voilà.
Merci, Dominique Aminia. Le Bonjour. Masque, il peut tomber.
C'est ça, on va tomber des masques alors.
Voilà.
Bonjour Gino, moi je m'appelle Dominique Amilien, je dirige une entreprise qui s'appelle Villemora Mikado. Elle est une entreprise qui a pour objectif la création variétale qui est spécialisée dans le domaine des légumes. On commercialise ces variétés dans le monde entier. C'est une entreprise qui fait 1000 personnes. C'est aussi une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est 90% à l'international. Nous sommes 27 nationalités. Et j'ai envie de dire, c'est une entreprise connue pour ses marques, puisqu'on parle d'une entreprise connue à l'ouest du monde qui s'appelle Villemorin, une entreprise qui est connue à l'est pour sa marque qui s'appelle Mikado, et avec des espèces emblématiques comme la laitue, mais surtout la carotte, la tomate et le poivron.
Merci pour ces deux présentations d'entreprise. On va démarrer par une question qui s'adresse à Philippe Laurent. Vous êtes un acteur, on l'a compris, hein, du secteur de la nutrition, prévention, santé. En quoi ce secteur permet-il de trouver de nouvelles valorisations du monde du végétal? En quoi il est une opportunité justement pour créer de la valeur au sein des filières et donc au sein des territoires?
Alors aujourd'hui, nos préoccupations sont effectivement de permettre à chaque individu de rester en bonne santé le plus longtemps possible, et nous devons agir très en amont de la maladie sur des signaux faibles, des marqueurs qui montrent qu'il y a un dérèglement physiologique de notre organisme. Et dans ce cadre-là, nous devons agir de manière efficace, mais aussi sans effet secondaire. Et donc ce mixte-là fait que nos actifs sont contenus dans les végétaux. Donc aujourd'hui, nous, notre matière première, c'est des extraits de plantes dans lesquels on va trouver des cocktails de molécules qui vont nous permettre de prendre en charge ces facteurs de risque de maladies chroniques et de gagner des années d'espérance de vie en bonne santé. Alors, c'est l'ancêtre de la plante médicinale, hein, c'était la tisane. Aujourd'hui, les choses évoluent et nous sommes sur effectivement de la molécule biosourcée. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire émerger des filières d'excellence dans ce domaine-là, pour produire ces molécules biosourcées à partir de plantes médicinales. Pour cela, il faut effectivement, et je pense que c'est la chance que l'on a au sein de ce pôle, c'est d'associer des compétences qui sont multiples. Moi, je suis docteur en pharmacie, je vois bien le type de molécules qu'il nous faut, mais je ne sais pas les produire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de mettre en interactivité à la fois le monde de la recherche agronomique, de la sélection variétale, Emilien, tu nous le disais tout à l'heure, et puis derrière, définir des parcours culturaux, être en capacité d'orienter ce profil phytochimique à partir des plantes que nous allons utiliser demain dans nos produits. En faire des extraits qui soient standardisés. Si on commence cette standardisation dès le choix de la variété, ça sera beaucoup plus facile. Et derrière, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir objectiver ces solutions à partir de ces plantes et de ces extraits sur ces profils phytochimiques standardisés. Donc c'est un enjeu qui est majeur. Je pense qu'on va passer, il y a deux paradigmes, on va passer de la production de biomasse à la production de molécules biosourcées à l'hectare. Et puis le deuxième, et là je parle peut-être plus dans le cadre de nos métiers, mais on va avoir demain des monographies qui vont qualifier nos extraits, qui vont plus qualifier le profil phytochimique des extraits que nous utilisons, ces profils portant l'activité physiologique, que de parler simplement de traceurs. Donc une démarche qualitative qui, je pense, en associant l'ensemble de ces métiers, de la recherche agronomique, de la production agricole, nous permettra demain de développer ces molécules biosourcées dont on n'a pas besoin que pour le monde de la pharmacie, de la santé humaine, puisque je me suis rendu compte en réfléchissant à ces sujets que ça concerne l'ensemble du vivant à la surface de la planète, l'homme, l'animal, le végétal et même les micro-organismes.
On y reviendra sans doute un peu, mais puisqu'on évoque les plantes médicinales, et puis j'ai parlé tout à l'heure, Séverine, de votre diversification sur votre exploitation, vous en avez choisi de cultiver deux plantes plus particulièrement, camomille et lavande. Et en quoi cette stratégie de diversification vous permet de créer de la valeur? Et puis, comment vous faites le lien avec effectivement cette question qu'on vient de poser à travers l'expérience de l'entreprise du groupe Ilège sur le fait d'être en mesure d'apporter une ressource nouvelle ou en tout cas une nouvelle valorisation de la ressource végétale?
Alors pour moi, la réponse à la première question que vous avez pris en exemple, les plantes médicinales, pour moi, c'est vraiment ce qui illustre ce que j'appelle les opportunités de diversification aujourd'hui qui peuvent s'offrir aux producteurs français. D'une manière générale, sur plein de diversifications possibles, qui n'étaient peut-être pas complètement évidentes à trouver il y a 10 ou 15 ans de ça, mais qui aujourd'hui, vu le contexte, vu la demande de croissance dans le Made in France, parce que le Made in France rassure, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire aussi, nos concitoyens sont de moins en moins prêts à déléguer leur alimentation et leur santé à d'autres pays, à d'autres territoires. Et donc on assiste à une recentralisation quelque part de ces enjeux-là, alimentaires et autres, et santé aussi. Donc tout ça pour dire que du coup ça offre de nouveaux débouchés pour les agriculteurs. Après, c'est vrai qu'il faut être agile, il faut savoir saisir les opportunités, il faut aussi un peu sortir du cadre, parce que forcément ça nécessite une prise de risque. Mais c'est des cultures qui apportent une valeur ajoutée intéressante pour les exploitations. Parce que, encore une fois, il y a une valeur qui est créée, qui est un peu différente du modèle classique d'il y a 15 ou 20 ans. Ensuite, la deuxième partie de la question, si je peux me permettre, c'est-à-dire d'une manière générale, pour un agriculteur, il sait que la valeur, elle se situe plutôt dans l'aval. Alors certes, l'amont, s'il arrive à avoir, et là, c'est un petit peu ce qu'on a fait chez Limagrain depuis très longtemps, en créant des variétés spécifiques, des variétés adaptées au terroir et à la transformation qu'on voulait faire avec ces plantes-là. Donc on a créé quelque part un marché de niche très spécifique qui apporte de la valorisation. Mais la valorisation, en général, on va la trouver aussi dans l'aval. Donc plus on intègre de l'aval dans les productions, plus on va loin dans l'aval, plus on capte de la valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle une filière.
Philippe Laurent, vous vouliez rebondir sur les propos de cette création de valeur à travers la filière?
Oui, je pense que ce que vient de dire Séverine est essentiel. Il faut effectivement qu'on arrive à capter de la valeur pour l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble de la filière. Je pense qu'avec cette chimie verte de la molécule ou des molécules biosourcées, on peut arriver à protéger l'écosystème à travers le choix de variétés, des parcours culturaux, mais aussi demain des brevets d'application sur des applications particulières par rapport à des extraits de plantes et des cocktails de molécules biosourcées. Et la protection de l'ensemble de cet écosystème, qui est indispensable pour n'importe quel groupe qui veut développer aussi une offre sur le marché, peut permettre de capter et de pérenniser la valeur sur l'ensemble de l'écosystème, du producteur jusqu'au premier transformateur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable et qui est partie intégrante du développement de ces nouvelles filières.
On évoque la notion de filière, on pourrait aussi rebondir sur la notion de chaîne de valeur. Et notamment, on a vu avec cette crise un retour vers tout ce qui est circuit plutôt court. Comment vous le traduisez dans votre exploitation et quel est votre point de vue d'agricultrice sur la capacité à pérenniser ce circuit de distribution et comment ça s'inscrit dans l'évolution qu'on peut attendre?
Alors, ça rentre dans ce que j'appelle les nouvelles opportunités de diversification. C'est-à-dire, moi, concrètement, sur mon exploitation, aujourd'hui, je fais des légumineuses, je fais des lentilles. Et il y a 15 ans de ça, on m'aurait dit, les consommateurs m'auraient dit, c'est très bien, vous faites des lentilles, c'est super. Mais moi, si je les trouve moins chères chez Leclerc, je vais les acheter chez Leclerc. Ou chez Auchan, ou chez Carrefour, ou tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on me dit, c'est très bien que vous fassiez des lentilles. Je suis conscient que ce n'est pas les mêmes que dans les grandes surfaces, que ce n'est pas les mêmes que celles qui viennent du Canada, pour être très clair. Et donc, je suis prêt à payer plus parce qu'elles viennent du local, parce que je sais comment elles sont faites et parce que, quelque part, j'ai un contact avec le producteur et j'en ai besoin, moi, en tant que consommateur, pour me réassurer sur la qualité de ce que je mets dans mon assiette. Donc ça, ça a une valeur qui n'existait pas finalement auparavant. Et je pense que l'agriculteur, d'une manière générale, il ne faut pas qu'il brade son travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mette la vraie valeur de son travail. Il ne faut pas qu'il ait, faut qu'il ose, quelque part, réclamer la vraie valeur de son travail. Souvent, on entend dire que l'agriculteur, c'est la variable d'ajustement. Et l'agriculteur, s'il n'est pas là, tout le reste, il n'y a pas de filière. Je veux dire. Donc il faut qu'il soit quand même conscient du fait qu'il est un acteur majeur, qu'il a un maillon extrêmement fort de toutes ses filières et de ses chaînes de valeur. Il faut qu'il revendique un partage de la valeur plus équitable. Ça, c'est vrai que c'est plus facile à faire quand on maîtrise toute une filière que quand on est un petit peu dispersé dans toute la filière.
Très bien. Plusieurs reprises, vous avez évoqué la dimension internationale. Et puis on a vu avec la crise qu'on est en train de traverser, d'une part, et pour faire le lien avec l'entreprise de Philippe Laurent, la capacité, lorsque les forces s'unissent à une échelle internationale, à renverser des choses. Où, je prends l'exemple des vaccins, où on pensait qu'il nous fallait 4-5 ans à chaque fois pour créer un vaccin. On a vu qu'on était capable, dans un temps extrêmement court, quand on unit les forces, de faire plus tôt. Et c'est sans doute parce que la crise est internationale que les acteurs ont su se mobiliser à l'échelle internationale. Et puis cette dimension internationale, je vais me retourner cette fois-ci vers Dominique Amilien, puisqu'il a d'une part, évidemment, la responsabilité, comme il vient de nous l'exprimer, d'une entreprise franco-japonaise qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Et puis, il est aussi vice-président en charge de l'international au sein du pôle VG Police Valais. Donc peut-être essayer de nous dire, dans ce contexte de crise, est-ce qu'au fond, il y a encore une capacité à dégager de la valeur à l'international ?
Moi, Gino, ce que je voudrais rappeler avant de parler d'exemples, et il y a quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête lorsqu'on parle d'international. On a la chance, la France, de compter parmi les pays qui ont un savoir-faire et qui ont une tradition dans le végétal. On peut citer, aujourd'hui, on peut citer la Hollande, on peut citer les États-Unis, on peut citer le Japon. Mais la France fait partie de ce peloton et il faut compter aussi avec la France. Et c'est véritablement un fleuron aujourd'hui que l'on a, la filière du végétal et le végétal en particulier. La France a démontré, de par sa recherche appliquée au végétal, qu'elle est très compétitive. Et aujourd'hui, les solutions que l'on peut offrir, et là je peux parler seulement de l'exemple de Villemort-Amicado, mais on peut aussi témoigner de d'autres entreprises que l'on connaît aussi de VG Police, eh bien, effectivement, la filière végétale française, quand on en parle à l'international, elle résonne et elle résonne positivement, puisque aujourd'hui, on commercialise, par exemple, pour notre cas, 90% de notre chiffre d'affaires à l'international.
Donc là, on est sur le volet, effectivement, la dimension internationale. Et au fond, dans ce nouveau contexte-là, où c'est un peu plus compliqué, est-ce que vous sentez, vous, en tant qu'entreprise, que des nouvelles opportunités se sont faites du fait de ce contexte si particulier? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu à l'échelle très modeste du pôle, on a dû... toutes nos actions à l'international, elles ont été modifiées. Hein. On a découvert qu'on pouvait faire des visites virtuelles à distance, qu'on pouvait faire des meetings différents, effectivement, interlocuteurs du monde entier, sans se déplacer. Alors il y a une forme de frustration, quand même, hein, mais... Ouais. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi des nouvelles portes qui s'ouvrent ?
Ben si, en effet, tu l'as dit, c'est effectivement des difficultés pour les entreprises. Et je ne veux pas le minimiser dans mon propos. Mais aussi, c'est une nouvelle façon de travailler, d'approcher notre métier. que l'on n'aurait pas pu imaginer avant le Covid. Il faut admettre que devant la difficulté, toutes nos équipes et les équipes de la filière végétale ont fait preuve d'une innovation de créativité qui n'aurait pas été imaginable dans le monde d'avant, si je peux reprendre ce mot-là. Aujourd'hui, on a vu clairement, moi je peux citer un certain nombre d'exemples où on a utilisé le digital à distance, où auparavant, dans mon entreprise, on aurait fait le déplacement pour aller visiter des serres, faire des observations. Et bien là, on a trouvé des solutions pour faire des observations à distance, pour déléguer des missions à des collaborateurs en local, pour déléguer même à des tiers. Du coup, ça montre bien que cette possibilité de fonctionner différemment avec la digitalisation notamment, elle est possible. Et aujourd'hui, il faut admettre que dans le contexte de difficulté, on a aussi observé une plus grande efficacité des entreprises sur un certain nombre de domaines. Évidemment, la digitalisation, elle est venue segmenter la communication entre les humains. La façon d'interagir, une nouvelle façon d'interagir entre nous est née. Ça ne veut pas dire qu'elle remplace le présentiel, mais elle nous a apporté de l'efficacité. Et là, il y a des choses, des enseignements à apprendre de cette expérience. Et on doit dire que il y aura probablement... Alors, Philippe Rothier, il n'aime pas le monde d'après, mais tout de même, dans le monde d'après, il en restera des choses positives. Et parmi les choses positives, eh bien, je pense qu'on apprendra à mieux utiliser nos ressources, à avoir plus d'efficacité, par exemple, dans l'utilisation du digital, du digital, comme par exemple les réunions à distance, que maintenant, on n'hésite plus à faire. La preuve aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui, quoi.
Donc, on voit bien la digitalisation, en fait, c'est une façon, effectivement, de communiquer avec les autres qui est différente et qui est facilitée, même si on sait que quand on est dans une relation physique de proximité, il se passe aussi dans les temps dits hors salon, des choses qui sont importantes. C'est aussi apprendre à mieux se connaître. Donc, la relation humaine est importante. Mais bon, effectivement, quelques frontières se sont déplacées dans ce qui se concerne. On a vu aussi que la digitalisation, c'est aussi la... plus de connaissances, puisque derrière, ça renvoie à la notion de data. J'aimerais bien un petit mot là, des uns ou des autres sur cette question des données, des data, et comment, quelque part, ça peut aussi offrir de la capacité à dégager de la valeur.
Il y a deux éléments dans ce que tu dis, Gino. Il y a effectivement l'accès à l'information plus rapide en quantité très importante va probablement aussi demander aux entreprises... des nouvelles compétences et il y a de l'accompagnement. Nous aurons de l'accompagnement à avoir dans nos entreprises pour pouvoir gérer cette information, gérer ces data, et va probablement nous forcer à être plus focus sur nos objectifs. Mais aujourd'hui, c'est clair, les data vont être une des clés pour comprendre les problématiques auxquelles on doit faire face, pour les solutions que l'on doit apporter à nos clients. Et je pense qu'on a pris un virage très important avec cette digitalisation.
Ok, on a donc parlé de digital, on a parlé de végétal et des fonctions nouvelles qu'on donne au végétal pour apporter des réponses aux solutions liées à la nutrition, la prévention et santé. Et puis on a parlé de nouveaux végétaux au sein des exploitations. On a quelques remontées de nos adhérents à travers les questions qui nous arrivent par SMS, et je le rappelle, vous pouvez toujours poser des questions au 06 43 85 53 86. La première question, c'est: est-ce qu'on peut créer un modèle économique autour du rôle des producteurs ou transformateurs en tant qu'acteurs des équilibres des milieux? Alors moi, je renvoie ça au milieu, au sens milieu naturel. Peut-être quelques réactions sur ce sujet-là. En fait, est-ce que les fonctions que représentent... car aujourd'hui, l'agriculteur, quand il évolue dans son milieu, il y a une capacité à les reconnaître, ou est-ce que tout simplement ça passe uniquement par la façon dont il produit? Et on le sait, le citoyen est de plus en plus attentif au contenu de son assiette, pas qu'à l'arrivée, c'est-à-dire y compris au départ, c'est-à-dire au niveau de la production, voire même au niveau de la création variétale, puisque on a une entreprise de sélection variétale autour de la table.
Moi, je prendrais comme exemple, pour répondre à cette question, la question qu'on a évoquée lors de la première partie de cette table ronde, qui est le stockage du carbone. L'agriculture, aujourd'hui, la production végétale, c'est pour moi la seule façon possible aujourd'hui de stocker du carbone, de décarboner l'atmosphère. Donc l'enjeu sur ce sujet-là, l'enjeu qui porte sur l'agriculture est énorme. Cette fonction-là, qu'on va demander à l'agriculteur demain, stocker plus de carbone dans ses sols, forcément, elle a un coût. Forcément, il faudra qu'elle soit valorisée. Elle a un tel impact sur la planète entière. Forcément, c'est un enjeu de valorisation pour l'agriculteur. Et il faudra que l'agriculteur et la profession agricole le défendent, cet enjeu-là. Parce que c'est la seule à pouvoir répondre positivement à cet enjeu. C'est la seule activité qui est capable aujourd'hui de stocker du carbone. Donc il va falloir qu'elle défende aussi ses positions sur ces sujets-là, par exemple. Mais sur d'autres aussi. Tous les services sociaux, écosystémiques que l'agriculture peut rendre, à un moment donné, il faudra aussi les comptabiliser. Et comme aujourd'hui, on fait une comptabilité économique, quelque part, capitalistique, demain, on fera une comptabilité environnementale et qui devra se traduire par plus de rémunération pour l'agriculteur. Mais c'est aussi, effectivement, aux agriculteurs de défendre, quelque part, leur métier et leur fonction dans la société.
Merci. On a une deuxième question qui nous arrive, qui concerne le One Health. Et là, je me retourne vers Philippe, Laurent, évidemment. Comment, justement, ce One Health peut impacter la stratégie de votre entreprise? Et puis, est-ce qu'on est sur un phénomène de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée?
Non, je ne crois pas que nous sommes sur un phénomène de mode, mais c'est simplement qu'on vient d'en prendre conscience un petit peu plus qu'avant, sans parler du monde d'après. Mais globalement, la crise sanitaire que nous venons de vivre nous a fait prendre conscience que ce One Health, c'est ni plus ni moins que un formidable symbiome. Là, je suis en train d'inventer un mot, mais un symbiome entre l'ensemble des espèces vivantes qui habitent sur cette planète. Nous sommes tous interconnectés. Que ça soit les humains, que ça soit les animaux, les végétaux, les micro-organismes, nous sommes tous connectés. Donc il est illusoire de penser aujourd'hui que nous pourrons nous occuper de la santé des uns sans s'occuper de la santé des autres. Et si aujourd'hui nous sommes dans une démarche de prévention, ce que l'on connaît plutôt bien dans notre groupe concernant la santé humaine, mais je pense qu'il va falloir développer ce même type de démarche à partir de marqueurs très amont, de signaux faibles sur la santé des végétaux, sur la santé des animaux, sur la santé des micro-organismes. Et c'est en protégeant la santé des uns et des autres qu'on arrivera à une santé globale qui sera performante. Donc voilà, il ne faut pas oublier dans tout ça aussi, si on parle que d'une seule santé, c'est aussi les besoins que l'industrie demain aura dans les molécules biosourcées. Parce qu'il faudra se poser la question au-delà de la prévention de la santé pour toutes les espèces qui vivent, mais c'est aussi l'ensemble des intrants que nous mettons dans nos produits industriels. C'est des tensioactifs, c'est des colorants, c'est des arômes, peu importe, c'est des molécules que l'on retrouve dans nos fabrications, dont on a besoin bien souvent, et pour lesquelles le consommateur, l'accélération des tendances liées à notre crise sanitaire, aujourd'hui, plébiscite pour le biosourcé. Donc voilà, il faudra se poser ces questions aussi pour l'ensemble de ces produits qui concourent à cette démarche de préservation de la santé. Et puis, je pense que si on ne veut pas arriver dans une compétition des usages, même si on arrivera à amener des réponses, je pense qu'il faut intégrer dès la conception d'un projet d'innovation la co-valorisation de la matière végétale qu'on fait produire à nos amis agriculteurs. Il faut non pas se poser la question quand on est en train de se dire « j'ai ce coproduit qui m'embête et qu'est-ce que j'en fais », mais plutôt se poser la question très en amont de ce que je peux faire dans cette démarche qui rejoint la démarche One Health.
D'accord. On aura l'occasion justement de faire un petit zoom sur ces coproduits qui s'appelaient malheureusement des sous-produits à une époque et qu'on va plus utiliser ce terme-là. On a prévu ça au niveau de gouvernance du pôle. Hein. Dès qu'un de vous utilise ce mot-là, il y aura une petite croix. Et à la fin, je ne sais pas ce qu'on en fera. Mais en tout cas, ça doit sortir de notre vocabulaire. Donc, arrive un petit peu à la fin de ce deuxième plateau TV. Je voudrais évidemment vous remercier tous les deux pour votre contribution, puisque je remercierai plus largement Séverine après.
C'était le Réveil Végétal, un podcast produit et réalisé par Végépolis Vallée. Rejoignez notre réseau et retrouvez les podcasts sur toutes les plateformes et sur notre site web Végépolis Vallée.